Un grand merci à l'équipe de louanges de nous avoir entraînés dans le chant et dans la prière. Nous passons à la prédication qui sera donnée aujourd'hui par Yvan Souza. Merci Yvan. Je vais prier pour toi pour commencer. Merci Seigneur pour ta parole qui est la parole de vie. Et nous te remercions pour la prédication d'aujourd'hui et nous te prions pour Yvan qu'il puisse nous la transmettre de ta part. Amen.
Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va continuer dans notre série sur les psaumes des montées. Alors, Antoine nous a fait une magnifique introduction à toute cette série la semaine dernière, donc je ne vais pas reprendre toute cette introduction, mais simplement, pour ceux qui peut-être n'étaient pas là, juste dire que ces psaumes des montées, ce sont des psaumes et des chants qui étaient chantés par les pèlerins qui montaient à Jérusalem pour les fêtes juives. Alors, le psaume qu'on va étudier ce matin, c'est le psaume 122. Alors, dans ma Bible, ils ont donné un titre, mais c'est la Bible qui a choisi de mettre ce titre, hein, c'est pas dans le texte original, qui est « Priez pour la paix de Jérusalem ». Et puis, du coup, moi je me suis permis aussi de donner un titre que j'ai appelé « Une église de paix ». Donc je vous laisse choisir le titre que vous préférez. Et mon objectif ce matin, c'est, comme on a fait avec Antoine la semaine dernière, c'est qu'à la fin de ce message, on puisse ensemble lire ce psaume et puis le dire, le prier, le déclamer en église et puis que ce soit vraiment notre prière. Et de manière à pouvoir faire ça, l'idée c'est qu'on puisse passer un petit moment ensemble pour voir qu'est-ce que ce psaume a à nous dire aujourd'hui, personnellement et en tant qu'église. Et puis je vous invite vraiment tout de suite à faire la transposition de ce psaume en le prenant vraiment pour nous aujourd'hui, pour cette église. Il est question de Jérusalem, de la demeure de l'Éternel. Et puis on sait que aujourd'hui, la demeure de l'Éternel, c'est là où deux ou trois sont rassemblés. C'est dans l'église. Alors je vous invite vraiment à mettre ces lunettes-là et à lire ce psaume pour nous ce matin. Alors je lis le texte. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel, de David. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Nous allons monter à la demeure de l'Éternel ». Voici que nos pas s'arrêtent à tes portes, ô Jérusalem. Ô Jérusalem, cité bien bâtie, formant un tout bien uni. C'est là qu'affluent les tribus de l'Éternel. C'est la loi en Israël pour y louer l'Éternel. C'est là que sont établis les trônes pour ceux qui exercent la justice, les trônes pour les descendants de David. Priez pour la paix de Jérusalem. Oui, que ceux qui t'aiment, ô Jérusalem, vivent en sécurité. Que la paix soit dans tes murs et que la sécurité règne en tes palais. Pour mes frères, mes amis, je me plais à dire « La paix soit chez toi ». Pour l'amour du temple de l'Éternel, notre Dieu, je souhaite ton bien. Est-ce que vous avez de la joie quand on vous dit « Allons à la maison de l'Éternel » ? Est-ce que vous aviez de la joie en venant ce matin à l'église ? Ouais, c'est une vraie question, hein, parce que je sais pas vous, hein, mais voilà, aussi quand on est de l'église de Villars, peut-être en ce moment on peut se dire, voilà, est-ce que ces derniers mois, cette dernière année, est-ce que j'avais de la joie vraiment à venir au culte ? Moi, c'est un peu de la triche. Ce matin, j'avais de la joie, mais je pense que c'est parce que j'étais tellement content de venir partager ça avec vous. Mais c'est pas toujours le cas. En même temps, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir dire. J'aimerais tous les matins, tous les jours et tous les dimanches me lever et dire « Ouais, c'est dimanche, on va à l'église !» Je suis dans la joie. Et je pense, dans le fond, c'est vrai. Mais après, il y a un peu toujours des choses qui viennent gentiment tempérer cette joie. Le matin, il faut se préparer, il y a un truc qui se passe sur la route, le bus est en retard, etc. Alors, le but, c'est pas qu'on fasse une liste de tout ce qui pourrit notre joie de venir à l'église. C'est plutôt l'inverse. C'est comment être sûr d'avoir toujours cette joie. Ma proposition de réponse, elle n'est pas très loin, elle se trouve dans le texte. Ces pèlerins qui montent à Jérusalem, Je ne pense pas qu'il disait « Je suis dans la joie parce qu'on va devoir encore marcher pendant 60 km en plein soleil, on est chargés comme des mules, il y a toute la famille, les enfants font n'importe quoi. » Non. Je pense qu'il disait « Nous sommes dans la joie parce que nous allons là où Dieu est. Nous allons être dans la présence de Dieu, nous allons être dans la demeure de l'Éternel. » Et je pense que pour nous, bah, c'est la même chose. Quand on va à l'église, quand on pense à l'église, à venir au culte, ben, trop souvent, on a plein de choses qui viennent, on se dit « Ah oui, il faudra que je pense à parler à un tel, je dois faire la louange, ou ah ouais, puis ce chant-là, je l'aime pas, et puis, enfin, toutes sortes de choses qui finalement sont secondaires. Mais ce qu'on oublie, c'est que, et c'est une bonne nouvelle, Dieu est là au milieu de nous ce matin, il est là à chaque fois que nous sommes rassemblés. Et ça, mes amis, être dans la présence de Dieu, c'est une bonne nouvelle et c'est quelque chose qui devrait toujours nous réjouir. Voici que nos pas s'arrêtent à tes portes, ô Jérusalem. Ô Jérusalem, cité bien bâtie, formant un tout bien uni. Là, c'est un peu comme si le psalmiste, il nous décrivait l'homme ou la femme idéale, mais en version ville. Hein. Cité bien bâtie, qui forme un tout bien uni. Il y a comme ça une espèce d'admiration et la description d'un idéal. Et puis, ben, finalement, si on se dit ben, voilà, que cette Jérusalem décrite comme ça, c'est un peu aussi la vision de l'Église, ben, il nous décrit un peu une Église idéale. L'unité. L'unité, je pense que c'est toujours bien de se rappeler que ce n'est pas une option dans l'Église. Et que l'unité, c'est un objectif, et puis c'est aussi un constituant même de l'Église, du corps du Christ. Hein ? Éphésiens 4:4, il y a un seul corps, un seul esprit. Donc, nous sommes appelés en Église et en tant que corps de Christ à être un. Je vous dis pas ça pour vous déprimer, je vous dis ça comme c'est un idéal. Donc ça veut dire que c'est quelque chose vers lequel on devrait tendre. Et du coup, moi, ben, je nous encourage à oser avoir ça comme idéal pour notre Église, à tendre vers cet idéal d'unité, d'être bien bâti. Et puis qu'on puisse hein, à s'arrêter devant cette porte de Villard et puis se dire « Ah ben voilà, voilà mon Église, elle est belle, elle est un, puis que les gens aussi, hein, qui viennent de l'extérieur, puissent nous voir et dire « Ah, bah, voilà une église bien bâtie. » C'est là qu'affluent les tribus de l'Éternel. C'est la loi en Israël pour y louer l'Éternel. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, toutes les tribus qui affluent. Vous savez, toutes ces images qu'il y a dans la Bible, les nations, toutes les langues, ensemble, qui louent le Seigneur. Moi, ça, c'est le genre d'image qui me met la chair de poule. Il y a vraiment quelque chose de fort là-dedans, dans cette idée que des cultures différentes, des tribus, des langues différentes se rassemblent pour venir louer l'Éternel. Et puis, ben, il y avait ça à Jérusalem. À l'époque, c'était là que tout le monde allait. Il y avait cet endroit. Et puis, ben, comme on l'a dit, maintenant, chaque église, chaque communauté, ben, elle a un peu cette responsabilité aussi. C'est aussi vers elle que les gens devraient venir. Dans la vision de notre église, il y a cette notion de, on est en église pour grandir dans la connaissance de Dieu, grandir dans l'amour, qui nous permet ensuite de rayonner vers l'extérieur, qui nous permet ensuite de diffuser cet évangile. Puis c'est une bonne vision. Mais j'aimerais qu'on puisse réfléchir 2 minutes à la vision qui nous est proposée ici. Cette idée d'une église qui attire, d'une église qui donne envie, où les gens viennent. Je profite de ce point pour faire un petit témoignage sur ce qu'on a vécu au cours Alpha. Petite parenthèse, si vous n'avez pas lu le dernier Marchons Ensemble, il y a un super article sur les cours Alpha dedans. Je ferme la parenthèse. L'idée des cours Alpha, c'est un peu ça. C'est de dire, on invite des gens à venir pour un repas, par exemple, et puis on leur dit, est-ce que ça vous dirait de venir pendant 12 semaines ? Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de Jésus, de la foi, de l'Église. Puis ce qui est fou, c'est que la plupart des gens disent oui et reviennent. Et puis dans un des petits groupes, celui où j'étais, je pense au bout de peut-être la deuxième séance, il y a une participante qui nous dit comme ça, bah moi franchement, quand je vous vois tous là ensemble, ça me donne envie. Je sais pas, on dirait comme une famille, vous êtes hyper polis les uns avec les autres, il y a des gens qui viennent aider, et puis, y a un peu des gens de tous les âges, etc. Puis, bah, ça, franchement, c'est le genre de choses qui fait plaisir à entendre. Et puis, c'est pas la première fois que je l'ai entendu. Je pense que ça fait peut-être 6 ou 7 ans que je suis dans cette église. Et plusieurs fois, j'ai entendu des gens venir ici et dire, ah, bah, moi, je suis venu, et puis, je suis vraiment senti bien accueilli, j'avais l'impression d'être dans une famille, puis du coup, ben, c'est ça qui m'a fait rester. Puis du coup, ben, moi, j'ai vraiment envie de vous encourager et de nous encourager à continuer d'être une église qui attire, une église qui donne envie. Et puis c'est vraiment, voilà, ma prière pour Villars, la prière pour nous. Nous soyons une église qui donne envie. Priez pour la paix de Jérusalem. Oui, que ceux qui t'aiment, ô Jérusalem, vivent en sécurité. Que la paix soit dans tes murs et que la sécurité règne en tes palais. Alors là, je me permets peut-être 2 secondes de sortir de mon analyse et de dire qu'on peut prendre ce verset aussi au sens propre, au premier sens. Je pense qu'il est bon de prier pour Jérusalem, même encore aujourd'hui pour la ville de Jérusalem. Je crois qu'en tant que chrétien, c'est clair qu'on a une responsabilité de prier pour le peuple juif. Et puis, même si vous êtes comme moi et que tous les enjeux géopolitico-stratégiques et même spirituels, des fois, vous échappent un peu vis-à-vis de ces questions-là, je pense qu'on ne peut jamais se tromper et que c'est toujours une bonne chose de prier pour la paix de Jérusalem. Mais si je reprends mon idée de ce matin et de penser à notre Église, alors là, je dois faire une confession directe, c'est que je pense que je ne prie pas assez pour mon Église. Je vais être tout à fait honnête. Je prie pour des gens de l'Église, je prie pour des situations précises, parfois. Je prie à l'Église, mais prier pour cette Église en tant que telle, prier pour la paix dans cette Église, c'est vraiment pas quelque chose que je fais très souvent. Puis, même au-delà de ça, en réfléchissant, je me disais, non seulement je ne prie pas beaucoup pour cette Église ni pour la paix, mais je suis aussi probablement souvent parmi ceux qui sont toujours les premiers pour discuter de ce qui ne va pas, ce qu'on peut améliorer, pointer les dysfonctionnements, etc. Je ne le fais pas par méchanceté, je le fais parce que j'aime cette Église, parce que ça me touche. Mais je me dis, en fait, tout ce temps que je passe à faire ça, c'est du temps que je ne passe pas à prier pour mon Église et à prier pour la paix dans mon Église. Et puis, voilà, c'est une réflexion personnelle, et puis du coup, je vous la partage, parce que je me dis, ça peut aussi peut-être en encourager certains d'entre vous. Je suis tombé sur une citation de Bonhoeffer, Antoine a aussi cité Bonhoeffer la semaine dernière, qui dit ceci, en parlant de l'Église. Le Seigneur ne te place pas au milieu de son Église pour que tu t'en fasses devant lui l'accusateur, mais pour que tu pries pour elle. Alors voilà, je vous laisse cette pensée, peut-être qu'elle vous encouragera comme même moi, elle m'a encouragé, mais voilà. Passons du temps à prier pour notre Église. Dans le verset 7, il est dit donc que la paix soit dans tes murs et que la sécurité soit dans tes palais. Ici, en fait, le psalmiste, il nous explique les 2 aspects de la paix pour lesquels il faut prier. Les murs, ça fait référence à l'extérieur. C'est les murs, c'est la muraille. Donc c'est prier pour la paix vis-à-vis des attaques, des ennemis qui pourraient venir de l'extérieur. Et puis, les palais, ben là, c'est plus la notion de ce qui se passe à l'intérieur. Les palais, c'est le lieu du pouvoir, c'est le lieu de l'organisation politique, c'est là où se prennent les décisions. Et du coup, tout de suite, ce souhait de paix, il est autant vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi vis-à-vis de ce qui se passe à l'intérieur. Puis, en réfléchissant à ça, Et je me disais, ah ouais, c'est vrai quand même, des fois, dans nos églises, on est souvent un peu tous à la muraille. On est tous à la muraille le dimanche, et puis à regarder ce qui se passe dehors, et puis à dire, oh là là, vous avez vu comme notre pays se déchristianise, oh, et puis, ah là, il y a de plus en plus de musulmans, ah, et puis cette loi éthique, n'en parlons pas. Et puis voilà, c'est des choses qui nous inquiètent, parce que c'est des menaces, et puis souvent on prie pour ça, puis on dit, Seigneur, voilà, aide-nous à nous protéger aussi, à savoir comment réagir de ces choses. Et puis ça, c'est une bonne chose, c'est important. Et on sait malheureusement que trop bien ce que ça donne quand l'Église est attaquée de l'extérieur, dans les pays par exemple où l'Église est persécutée. Mais je me dis parfois, à force d'être tous sur la muraille à regarder dehors, eh ben on oublie de regarder aussi ce qui se passe à l'intérieur. Puis on oublie de faire le même travail, d'identifier peut-être dans notre organisation, dans ce qu'on vit entre nous, des choses pour lesquelles il faudrait aussi prier, pour demander la paix, pour demander la sécurité dans ce que nous vivons. Alors voilà, c'est vraiment une exhortation à prier et puis à continuer de prier, tant pour voilà, les choses qui pourraient nous menacer de l'extérieur, mais aussi de ne pas oublier de prier pour qu'on ait la paix à l'intérieur. En guise de conclusion, si on veut, j'aimerais parler un peu plus sur la paix en elle-même, et puis aussi pouvoir simplement vous donner des pistes sur comment est-ce qu'on peut être des acteurs de paix. Pas simplement attendre cette paix qu'elle vienne, prier pour la paix, mais comment on peut aussi être acteur de ça. La paix, finalement, c'est comme le silence. Puis, c'est assez proche, hein, comme notion, la paix, le silence. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne se définit pas en tant que tel, c'est une chose qui se définit par l'absence d'autre chose. Le silence, c'est l'absence de bruit. La paix, c'est l'absence de conflit. Ça veut aussi dire que, comme le silence et la paix, en fait, elle est toujours là. Simplement, la plupart du temps, il y a des choses qui viennent la perturber. Le silence, en fait, si on s'arrête tous et qu'on arrête de faire du bruit, il y a le silence immédiatement. Mais il y a toujours du bruit, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et finalement, prier pour la paix, ben, c'est prier pour justement enlever toutes ces choses qui perturbent la paix. C'est pour un peu faire le ménage, faire la place pour que la paix puisse être là, puisse prendre place. Mais du coup, prier pour la paix, ben ça nous engage. Parce qu'en fait, on est appelé à être des ouvriers de paix, on est appelé à être des acteurs de cette paix. Et puis, non seulement on doit être ouvrier de paix, mais finalement, on est surtout appelé à ne pas être des ouvriers de guerre, si je puis dire. On est surtout appelé à ne pas être celui par qui la paix est brisée. Et si je reprends le parallèle avec le silence, c'est tellement facile de briser le silence. Si je dis maintenant, ok, on va prendre un moment de silence, ben là, il y en a un qui se gratte, il y en a un qui éternue, il y a un téléphone qui vibre, et puis ça y est, il n'y a plus de silence. Puis la paix, c'est pareil. La paix intérieure, vous êtes dans un moment de paix intérieure, et puis d'un coup, ça y est, ah, le rôti, les factures, et puis la paix, elle n'est plus là. Puis en communauté, c'est pareil, finalement. On peut avoir un sentiment, ah, on est en paix, et puis voilà, une parole, une critique, et puis c'est fini. Il n'y a plus de paix. Alors, encore une fois, mon objectif, c'est pas de nous déprimer, donc je voulais plutôt laisser sur une bonne nouvelle, c'est que pour nous, les chrétiens, la paix, c'est pas juste un concept, c'est pas juste quelque chose comme ça d'un peu abstrait. Pour nous, chrétiens, la paix, c'est une personne, et puis la paix, c'est aussi un lieu. C'est une personne, Jésus, qui parmi ses nombreux titres a celui de prince de la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que quand on prie pour la paix, ben on prie au prince de la paix. Alors j'ai envie de dire, qui mieux que le prince de la paix pour donner la paix? Non seulement ça, mais en plus, ce prince de la paix, il s'est incarné, donc il a vécu au milieu des hommes, donc en plus, il nous a laissé un exemple. Donc en plus, on a des exemples dans les évangiles de comment on vit quand on est prince de la paix sur terre. Mais la paix, c'est aussi un lieu. Ah, vous allez me dire, oui, au sommet du Gramont, dans le désert de Gobi. Non, un peu plus près que ça. La paix, c'est ici, au pied de la croix. Au pied de la croix, parce que la croix, c'est quoi ? C'est le symbole de Dieu en paix de nouveau avec les hommes, pour que les hommes soient en paix les uns avec les autres. Et la croix, c'est aussi, au pied de la croix, c'est le lieu de la paix, parce que ben, toutes ces choses dont on a parlé, toutes ces choses qui peuvent perturber la paix, eh ben, elles n'existent plus, elles n'ont plus d'importance au pied de la croix. Si c'est la paix intérieure, au pied de la croix, il y a la paix intérieure, parce que toute ma culpabilité, toutes mes fautes, tous mes soucis, tous mes fardeaux, tout ça, au pied de la croix, il n'y a plus. Mais au pied de la croix, il y a aussi la paix si vous venez avec quelqu'un. Et si on va en église et qu'on va tous au pied de la croix, il y a aussi la paix. Il y a la paix parce que au pied de cette croix, eh ben, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni maître, ni homme, ni femme. Au pied de cette croix, il n'y a plus les libéraux, les démocrates, il n'y a plus ceux qui sont restés, ceux qui sont partis, il n'y a plus ceux qui avaient raison, ceux qui avaient tort. Au pied de la croix, il y a seulement des enfants de Dieu rachetés en paix avec leur Père pour vivre en paix les uns avec les autres. Et j'aimerais vous laisser, en guise de conclusion, ce verset de Romains 14, verset 19, qui dit: ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir dans la foi. J'aimerais maintenant, avant qu'on lise ensemble le psaume, j'ai passé mon temps à vous exhorter à prier pour l'Église, à prier pour la paix de l'Église, je vous propose qu'on prenne ce temps aussi maintenant. Un temps de prière, que vous priez dans votre cœur ou priez à haute voix, selon ce que vous préférez, et puis que vous priez pour ces différents éléments. Vous pouvez prier pour que nous ayons la joie d'être ensemble, prier pour que nous soyons une église qui donne envie, prier pour la paix vis-à-vis de l'extérieur, prier pour la paix à l'intérieur, ou prier aussi pour tout ce qui vous vient à l'esprit vis-à-vis de notre église. On va passer ce moment ensemble en prière, puis je conclurai, et puis ensuite, on lira ensemble ce psaume. Alors, prions pour notre Église.